c'est la boîte à musique.
Bonjour, c'est Anne sur Altitude FM. Venez avec moi à la découverte de Johannes Brahms, un compositeur de l'époque romantique. Connaissez-vous cet air ? C'est le troisième mouvement du concerto pour piano numéro 1, dédié à Schumann en 1859. Ce mouvement est un rondo, c'est-à-dire une alternance de refrains et de couplets. Très rythmé, à jouer allegro non troppo, c'est-à-dire rapide mais pas trop. Le soliste dialogue avec l'orchestre. Comme les deux hommes, Brahms et Schumann, ont dialogué, car leur amitié était profonde et sincère, empreinte d'admiration mutuelle. Reprenons maintenant le cours de la vie de Johannes Brahms. Il naît à Hambourg en 1833. C'est l'année où Charles Babbage conçoit le premier ordinateur, qu'il appelle machine analytique, et où le sculpteur, Rude, commence le haut-relief célébrant le départ des volontaires de 1792, sur le piédestal de l'Arc de Triomphe à Paris. Son enfance est pauvre, mais chargée de musique. Son père est contrebassiste dans un petit orchestre de théâtre. Sa mère exerce le métier de couturière. Quand Johannes eut 7 ans, son père s'aperçut qu'il avait l'oreille absolue, c'est-à-dire une perception fine de la justesse, une capacité à reconnaître une note à l'écoute d'un son, sans avoir besoin au préalable d'entendre la note de référence. Le jeune Brahms contribue au budget familial en jouant dans les tavernes de Hambourg, c'est-à-dire les bouges, les bars, les maisons closes. Enfant prodige, il donne son premier concert à 10 ans. Son professeur est un pianiste et compositeur qui l'initie à la musique de Bach, Beethoven, Haydn. Il rencontre aussi des violonistes qui lui font découvrir la musique tzigane, qui va l'inspirer énormément. D'ailleurs, le goût romantique a remis à la mode la musique dite folklorique, du mot folk, le peuple, que l'on peut reconnaître comme une source populaire de la musique. Écoutons par exemple la danse hongroise numéro 5, utilisée dans le film de Chaplin, Le Dictateur. Elle s'inspire de rythmes tziganes avec de brusques changements de rythme, enjoués ou lents. Elle est composée dans le mode mineur, ce qui lui confère une atmosphère d'étrangeté. Son ami Dvorak en compose après lui, ainsi que Béla Bartok. Son ami violoniste Joseph Joachim le présente à Liszt, avec qui le courant ne passe pas du tout, car Brahms s'endort à moitié quand le virtuose lui joue un de ses morceaux préférés. Par contre, quand Joseph lui présente les Schumann, Clara et son mari Robert, c'est immédiatement le flash. On peut dire qu'il connaît une seconde naissance à partir de cette rencontre, en 1853. Il a 20 ans, il est timide et réservé. La chaleur de l'amitié des Schumann va l'aider à se réaliser. Lorsqu'il se met à jouer une de ses sonates pour piano, Robert dit à Clara « Viens écouter une musique comme tu n'en as jamais entendue ». Schumann est enthousiaste et même survolté. Il rédige un article plus qu'élogieux dans son journal musical, saluant en lui un génie de la musique. Robert meurt 3 ans après, laissant Johannes très affecté par cette perte. Johannes reste alors près de Clara. Je vous avais dit dans la précédente émission qu'il gardait même ses enfants lorsqu'elle était en tournée. Il en est profondément amoureux. Il l'admire, mais elle préfère que ce lien reste platonique. Ce qui n'empêche pas que leur amitié était extrêmement forte. Elle était sa confidente, et son jugement lui importait plus que tous les autres. Profondément ébranlé par la mort de Robert Schumann, Johannes Brahms commence un projet de requiem. Puis, à la mort de sa mère, il se remet au travail. Brahms lit la Bible de Martin Luther tous les jours et s'en inspire pour rédiger lui-même le livret de son requiem allemand. En effet, Luther a fait traduire la Bible en allemand pour que chacun puisse la comprendre en Allemagne. Les catholiques, eux, ne la traduisaient pas pour que seuls les prêtres puissent l'expliquer au peuple. Les protestants, eux, veulent que le peuple puisse s'approprier le texte de la Bible. Brahms met 10 ans pour achever cette œuvre, en 1868. Lors de la création partielle de l'œuvre, une gaffe du timbalier dans le 3e mouvement provoque une grande confusion parmi les spectateurs, qui imputent cette maladresse au compositeur. Heureusement, lors de la création complète, tout se passe bien, et c'est même un triomphe. Il dirige lui-même son œuvre, dans la cathédrale protestante de Brême. Ce jour-là, de l'avis de tous, il devient le 3e B, après Bach, Beethoven, Brahms. Clara l'accompagne bien sûr lors de cette première. Elle a la primeur de cette création car Johannes la lui a offert en transcription pour piano à Noël 1867. Elle en est subjuguée. « Je suis réellement possédée de ton requiem. C'est là une œuvre dont la puissance singulière ne peut qu'empoigner l'auditeur, comme bien peu d'œuvres peuvent le faire. Un requiem allemand qu'il aurait volontiers appelé un requiem humain lui ouvre les portes de la renommée. Il se compose de 7 parties qu'il a tirées soit des évangiles, faisant écho par exemple au sermon sur la montagne, heureux les affligés car ils seront consolés. Soit des psaumes, heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ou encore du livre de l'Apocalypse, heureux les morts. Ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est une réflexion toute personnelle, une méditation sur la mort comme délivrance, la consolation des vivants. Une œuvre spirituelle, plus que religieuse peut-être. Le 5e mouvement que l'on va écouter a été composé en dernier, pour soprano solo et chœur. Ihr habt nur Traurigkeit. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. C'est un extrait de l'évangile de Jean. Et c'est un des plus beaux solos de soprano que Brahms ait écrit. Vous allez entendre les violons en sourdine, les petites phrases du hautbois, de la flûte et de la clarinette. Le solo de soprano reproduit la mélodie de l'orchestre, vous qu'afflige la douleur espérée. Et le cœur répond « Je vous consolerai comme une mère console son enfant ». C'est un murmure qui s'évanouit peu à peu sur les paroles de la soliste, soutenue par le cœur. « Vers vous, je reviendrai, je reviendrai ». Écoutons-le par Kirite Kanawa, les chœurs et l'orchestre symphonique de Chicago, sous la direction de Georg Solti. Brahms s'installe à Vienne en 1862. 1862, c'est aussi l'année où l'impératrice Zhevi fait restaurer le palais d'été en Chine, après sa destruction par les troupes franco-britanniques lors de la guerre de l'opium. Et aujourd'hui, ses jardins sont les plus grands et les mieux conservés de Chine. Brahms se trouve alors pris dans une controverse dont il se serait bien passé, lui qui est si discret et qui déteste les mondanités. Il s'agit du débat classicisme versus romantisme. Les admirateurs de Brahms défendent la tradition symphonique, le respect des formes établies, l'austérité, l'intériorité de la musique dite classique. Alors que les défenseurs du romantisme, eux, préfèrent la fougue et la passion de Wagner, de Liszt. Pour eux, c'est la musique de l'avenir, une œuvre révolutionnaire. Or, Brahms se fichait éperdument de ce débat. Mais c'est vrai qu'il voulait suivre l'exemple de Beethoven, tout en apportant quelques innovations de son cru. Aujourd'hui, on s'entend pour dire que Brahms est un des derniers compositeurs du courant romantique. Comment exprime-t-il son romantisme? C'est au travers de morceaux tels que les berceuses, les sérénades, les leaders, les valses, et même un concerto à la tzigane, que l'on peut saisir son amour de la nature, sa mélancolie, alternant joie et tendresse, douceur et entrain. Bref, tout ce qui fait le romantisme du XIXe siècle. Voici la valse pour piano numéro 15. Morceau qui évoque une romance sans parole, pleine de tendresse, avec son rythme léger. Dans la sérénade numéro 1, ce n'est pas un amoureux transi qui chante au pied de la fenêtre de son aimé. C'est une femme, ici, qui semble murmurer à son amant « Ne m'oublie pas ». Vergiss nicht mein. Brahms composait beaucoup pour le piano, son instrument de prédilection, et aussi celui de Clara. Dans l'intermezzo qui suit, on trouve le paradoxe d'une chaleur romantique et d'une mélancolie qui ne peut s'apaiser puisque l'aimé reste une amie. On entend l'opposition entre deux voix qui se cherchent, sans se trouver, des questions qui restent sans réponse. Cette œuvre reflète son goût pour la musique intimiste, la musique de chambre, car elle propose plus que tout autre un voyage intérieur. On entend souvent la berceuse de Brahms dans les boîtes à musique des petits-enfants. La berceuse, lullaby en anglais, Wiegenlied en allemand, peut être chantée, mais on la trouve aussi sous forme orchestrale. Chantée, elle commence ainsi. Guten Abend, gute Nacht. Bonsoir, bonne nuit. Vous allez entendre comme la reprise est retenue, comme pour ne pas troubler le bébé, tombe de sommeil. La mezzo-soprano Esther Valentin chante ce lied touchant. Thank you. Dernier exemple, mais non des moindres, car il fait partie du top 5 de Johannes Brahms, le concerto pour violon, dont nous allons écouter le final, avec la soliste Julia Fischer et la Berlin Radio Symphonie, sous la direction de Vladimir Jourovski. Le thème bondissant et très impressionnant, véritable morceau de bravoure, inspiré des danses tziganes. L'ambiance est à la fête, énergique, mais quelques ornements de la soliste nous entraînent dans un univers plus doux, entre fougue et douceur. C'est une œuvre magistrale, libre comme la danse. Dans les années 1870 et 1880, il écrit ses 4 symphonies. On le proclame alors digne successeur de Beethoven. D'ailleurs, dans le final de sa première symphonie, on entend des airs de l'hymne à la joie de Beethoven. Mais c'est sa 3e symphonie, composée en 1883, qui a le plus de succès. Surtout au XXe siècle, étonnamment. À partir du livre de Françoise Sagan, « Aimez-vous Brahms ?», paru en 1959. Et du film éponyme sorti en 1961, qui popularise sa musique. Nous abordons ainsi sa postérité. Le succès de sa 3e symphonie ne se dément pas. Le 3e mouvement est repris à l'envi. Son thème si célèbre dans le 3e mouvement, Poco Allegretto, est associé à l'amour. Au cinéma, dans la BO du film d'Anatole Litvak, Aimez-vous Brahms, avec Ingrid Bergman et Yves Montand, la musique de Georges Auric surfe sur le mouvement de Brahms. Ce thème de Brahms est également métamorphosé en standard de jazz et joué à la harpe, cette harpe si chère à Berlioz, dont nous avons parlé lors d'une précédente émission. Il disait « La harpe est un instrument qui murmure les plus doux secrets des riantes mélodies ». Écoutons-le par Dorothy Ashby. Et les reprises en chansons sont innombrables. Par exemple, « Babe Alone in Babylon » de Gainsbourg, chantée par Birkin.
Babe alone in Babylon, noyée sous les flancs de Pontiac, de Cadillac, de Bentley. Elle est de Rolls-Royce et de Buick dans la nuit métallique.
Ou encore Love of My Life de Carlos Santana sur son album Supernatural en 1999. Voici la version originale de 1883. Voilà, vous l'aurez compris, c'est le thème de l'amour qui ressort le plus de la musique de Brahms, avec ses joies, ses peines, la tristesse de ne pas être aimé en retour, et par-dessus tout, la mélancolie romantique. Sa devise était « seul, mais libre ». Son succès reste énorme aujourd'hui, c'est le musicien le plus joué après Beethoven, Il en est ainsi le digne successeur, bien qu'il ait eu beaucoup de mal, de par son humilité, à s'émanciper de ce magnifique héritage. Je vous donne rendez-vous sur Altitude FM tous les troisièmes jeudis du mois à 17h.